journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Une première est douloureuse pour le sortant. Le Sénat américain passe outre le veto de Donald Trump et alloue 740 milliards de dollars au budget de la défense. Précision dans un instant de Loïc Loury à New York. Il était pour bien des Maliens un recours et incarnait possiblement cette éthique qui fait défaut à l'État. Nous nous rendrons à Bamako où Kaourou Magassa a assisté aux obsèques de Soumaïla Cissé. Invité de cette édition, le docteur Raphaël Pitti de l'Union des organisations de secours et soins médicaux qui lance un nouvel appel aux dons pour les millions, oui, les millions de réfugiés syriens en grande difficulté dans le nord-ouest du pays. Enfin, la crise sanitaire en France avec la prolongation de la fermeture des lieux culturels et le couvre-feu à 18h dès demain dans 15 départements de la façade est. Rupture consommée et non sans brutalité entre Donald Trump et le bataillon républicain du Sénat, emmené par leur influent chef de file Mitch McConnell. Les élus du Grand Old Party ont correctionné le président sortant, un revers mémorable en votant au large le budget de la défense. C'est une correspondance de New York de Loïc Loury.
Depuis le début de sa présidence, Donald Trump a utilisé son droit de veto à 9 reprises. Jusque-là, le Congrès n'avait jamais réussi à atteindre la majorité des 2/3 pour passer outre. C'est donc chose faite, 3 semaines avant le départ du patron de la Maison-Blanche. Lors d'une séance exceptionnelle au Sénat, républicains et démocrates, fait rare, ont voté presque d'un seul bloc pour valider ce budget défense de 740 milliards de dollars. Résultat, 81 voix contre 13 et un veto présidentiel surtout renversé. Pour Donald Trump, le camouflet est terrible. Le président assure que le texte est trop favorable à la Chine. Il critique aussi une disposition qui permet de renommer les bases militaires qui honorent des généraux confédérés. Mais les élus républicains n'auront pas suivi le président dans sa dernière bataille. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à reconnaître sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre.
Un journaliste afghan abattu dans la province de Gore, dans le centre ouest du pays, Besmullah Adel Emak, rédacteur en chef de la radio Voice of Gore, a été mitraillé dans son véhicule. C'est le 5e journaliste ou employé de médias assassiné en 2 mois en Afghanistan. Son enlèvement était devenu le symbole de l'impuissance de l'État malien face aux violences djihadistes et intercommunautaires et l'exigence de sa libération avait été l'un des mots d'ordre de la contestation de plusieurs mois contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un putsch le 18 août dernier. La dépouille de Soumaïla Cissé, décédée il y a une semaine du coronavirus à Paris, a été inhumée aujourd'hui à Bamako. Kaourou Magassa a assisté aux obsèques d'une figure majeure de la vie politique malienne.
Devant le cercueil de Soumaïla Cissé, les discours d'hommage se succèdent aux pupitres installés dans la cour du Palais de la Culture de Bamako. L'État qui participe à l'organisation de la cérémonie est représenté par le Premier ministre Mokhtar Ouane. De nombreux membres du gouvernement sont également présents, mais c'est aussi et surtout la classe politique dans son ensemble qui assiste aux obsèques, comme une nation reconnaissante au parcours d'un homme qui aura marqué la vie politique de son pays. Thiébi Ledramé, directeur de campagne de Soumaïla Cissé lors de l'élection présidentielle de 2018, était hier à l'aéroport pour accueillir la dépouille.
Son action publique depuis quelques dizaines d'années, c'est dans l'intérêt du Mali. Vous savez, sa mort est un tremblement de terre politique dans ce pays.
Soumaïla Cissé était pressenti pour se présenter à la prochaine élection présidentielle qui devrait se tenir au premier semestre de 2022, c'est-à-dire au terme de la période de transition que traverse le pays après le coup d'État d'août dernier. Arrivé 3 fois second à la compétition pour la magistrature suprême, il partait cette fois-ci favori. Depuis 4 ans, Sokona Alignan, toute vêtue de blanc et masque noir sur le visage, milite dans son parti.
Soumaïla Cissé aujourd'hui remporte avec lui notre espoir pour un Mali émergent. Aujourd'hui se brise notre rêve pour un Mali épanoui.
Après une prière mortuaire réunissant une foule immense, Soumaïla Cissé a été enterré au cimetière du quartier de Sogonico de Bamako.
Kaourou Magassa. Venons-en aux ravages de l'hiver et de la pandémie en Syrie. Plus de la moitié des habitants du Nord-Ouest sont déplacés. 2,7 des 4,2 millions d'entre eux survivent dans 1160 camps, sous des tentes essorées par les pluies et la neige. 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Et ce ne sont là que quelques relevés de la structure que vous représentez, Raphaël Pitti, l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
1 an après une campagne de bombardement dans le gouvernorat d'Idleb, dans l'ouest syrien, vous lancez donc un nouvel appel aux dons, Raphaël Pitti, afin de voler au secours des déplacés de guerre, des enfants. Dans quel état se trouvent les camps ?
Alors, nous parlons bien entendu de la zone qui se trouve dans le nord-ouest de la Syrie, la zone dite de Idlib, où se concentrent 4 200 000 personnes, dont 2 800 000 qui sont des déplacés de toutes les zones de guerre qui ont été récupérées par le régime et qui sont venus se réfugier dans cette zone. Ce sont 2 800 000 qui sont dans des camps de toile, mais aussi des camps de fortune. Mais certains vivent dans des écoles, vivent encore chez l'habitant, dans des garages, etc. Donc une situation assez disparate par rapport à ces camps. Mais ce sont des camps qui subissent bien entendu l'hiver, et l'hiver est très rigoureux. La pluie en particulier, qui finit par des inondations très importantes. Et cette population vit d'une manière très précaire, parce qu'elle dépend totalement de l'aide humanitaire internationale. Et donc les difficultés d'approvisionnement sont là, ainsi que des difficultés qui touchent au chauffage, qui touchent aussi à l'eau. Vraiment une situation de très très grande précarité, une véritable catastrophe humanitaire sur laquelle se surajoute maintenant le Covid.
De quelle pathologie souffrent-elles ces populations ?
Alors on a toutes les pathologies saisonnières à cette période, surtout pour les enfants, que ce soit les rhinites, que ce soit la rougeole, etc., bien qu'on ait lancé une grande vaccination contre la rougeole, qui fait de nombreux morts parmi les plus petits qui ne sont pas vaccinés, mais aussi les personnes les plus âgées. Et donc, sur le plan sanitaire, ils ont besoin de tout. Il y a en fait une situation de très grande difficulté pour soigner du fait du manque de médecins et de personnel soignant. Nous avons mis en place des équipes mobiles qui se déplacent de camp en camp, mais les hôpitaux ont été détruits durant cette période de bombardement. Puis il était difficile d'imaginer de les reconstruire de peur d'être de nouveau ciblés. Et donc nous avons préféré créer ces cliniques mobiles. Il y a donc très peu de structures sanitaires en dur et nous faisons surtout des centres de soins primaires mobiles pour aller vers ces populations. Mais il y a un accès qui est extrêmement difficile. Et puis la situation économique est telle que beaucoup de ceux qui avaient encore la possibilité de se fournir en médicaments finissent par manquer de médicaments, en particulier pour les pathologies chroniques.
Raphaël Pitti, que dire cette fois de la pandémie et de l'impact de la pandémie dans ces camps syriens ?
Alors, lors de la première pandémie, la première phase, la Syrie a été très peu touchée d'une manière générale. Par contre, là, elle est sévèrement touchée. Il y a déjà environ à peu près plus de 20 000 à 30 000 cas dénombrés, ayant des signes cliniques, bien évidemment. Nous avons eu parmi le personnel soignant trois médecins qui sont décédés aussi. Là, il était difficile de mettre en place des évictions, de mettre en place un confinement. Il s'agit de camps. Les gens sont amenés à sortir tous les jours pour aller aux toilettes, tous les jours pour aller chercher la nourriture, tous les jours pour aller chercher l'eau, tous les jours pour aller satisfaire leurs besoins de base. Il est difficile d'imaginer de pouvoir les confiner. Donc nous avons opté plutôt pour des centres d'isolement des personnes présentant des pathologies, des signes symptomatiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous en avons mis 13 en place, 35 lits à chaque fois. Aujourd'hui, tout est plein. Et les hôpitaux aussi sont pleins, et en particulier les services de réanimation. Il y a très peu, il n'y a qu'une cinquantaine de respirateurs pour 4 200 000 personnes. Aujourd'hui, tout est saturé, et en particulier, nous manquons d'oxygène, et il faut faire des choix. Et vous comprenez ce que je mets derrière ce terme de « il faut faire des choix pour distribuer l'oxygène ».
Quel est le discours officiel ?
Eh bien, en vérité, il n'y a rien qui se passe sur le plan politique. Depuis un an, à partir du moment où le Covid a commencé à s'installer, que la pandémie a commencé à s'installer, tout le monde s'est retiré sur son propre territoire, dirons-nous, d'une certaine manière, de l'aide humanitaire en général. Bien évidemment, la France nous a aidés dans notre projet de mise en place de ces centres d'isolement, mais il y a actuellement une sorte de reflux de la solidarité internationale. Alors même que nous en aurions fortement besoin, malheureusement, chacun se retourne sur lui-même et sur ses propres préoccupations. Il y a auparavant deux corridors humanitaires, il n'y a plus qu'un seul corridor humanitaire. Peut-être que demain, les Russes feront en sorte qu'il n'y ait plus du tout de corridor humanitaire pour tenter d'assiéger cette population et l'amener à la reddition. Mais cette population n'a pas d'autre choix. C'est pas elle qui décide. Ce sont les 40 000 rebelles qui sont à l'intérieur de cette zone, qui font la loi. Et ils sont malheureusement soutenus par la Turquie.
Merci à vous. Merci Raphaël Pitti. Les détails de cette campagne de mobilisation sur le site de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Il est 22h10, vous écoutez le journal de France Culture. En ce début d'année boursouflé d'inquiétude, l'espérance d'Edgar Morin, qui a livré ce matin quelques réflexions à nos confrères de France Info. L'intellectuel espère que des forces créatrices et lucides vont s'imposer, même si, s'empresse-t-il d'ajouter, elles sont encore très faibles. Fin de citation. Parmi ces forces, les artistes, encore et toujours privés de scène. Le porte-parole du gouvernement a confirmé à la télévision à la mi-journée la prolongation de la fermeture des lieux culturels. Anne Lamotte a recueilli la réaction des abusés de Jean-Michel Ribbe, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris.
Manifestement, on n'est pas du tout entendu et manifestement, voilà, ça ne marche pas. Sans doute pour des raisons que nous ignorons, sans doute parce que la pandémie prend des proportions peut-être que nous ignorons, mais que faire d'autre sinon d'être résigné? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne peux pas, personne d'entre nous ne peut tenir les vagues d'un tsunami de contraintes avec ses deux mains. Voilà, bah voilà, on est résigné. Après, l'état des dégâts, comment dirais-je, cette espèce de dépression, de dégoût, de plus d'envie des créateurs, des auteurs, des comédiens, ça je ne peux pas le mesurer, mais ça va être fort. Et je vous signale en particulier, je voudrais parler des auteurs qui ne sont pas des intermittents de spectacle, n'ont aucune protection, n'ont pas de chômage partiel. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce que cette population importante, qui est un peu le pétrole de notre profession, va devenir? Je ne sais pas. Je ne suis pas résigné, je commence à être un petit peu perdu. Et peut-être qu'en effet, il faut rester très prudent, je ne sais plus. C'est vrai qu'à un moment, on ne sait plus que dire, on ne sait plus quoi dire.
Les derniers chiffres de la crise sanitaire livrés par les autorités il y a quelques minutes, le nombre de patients hospitalisés et ceux en réanimation a poursuivi une légère baisse selon Santé publique France. Et malgré ce léger infléchissement, le gouvernement Antoine Maret décide d'avancer de 2 heures le couvre-feu jusqu'alors fixé à 20h dans 15 départements.
Dans ces 15 départements, le virus reste particulièrement actif. Ils sont tous situés dans la moitié est du pays, la plupart au nord-est et 2 au sud-est. Dans ces 15 départements, à partir de demain, le couvre-feu sera avancé de 2 heures. Il commencera donc à 18 heures. Voici comment le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, justifie cette décision.
Quand vous mettez en place un couvre-feu, vous limitez les interactions sociales qu'on peut avoir dans un cercle privé. Et on sait que c'est par là que le virus se diffuse le plus. Et donc en avançant à 18h, par définition, vous limitez encore plus ces rencontres. On a un exemple en France, comparaison n'est pas raison parce que les territoires sont très différents et ont leurs spécificités, mais c'est le territoire de la Guyane. On avait mis un couvre-feu en place en soirée. Il a été avancé ensuite dans l'après-midi et on a vu très vite des effets.
Le gouvernement se donne une semaine pour réévaluer la situation. En cas de dégradation dans certains territoires, de nouvelles mesures seront prises et des reconfinements ne sont pas à exclure.
Plus de 200 procès-verbaux ont été distribués à des participants d'une rave party qui, à Lyon, en Ille-et-Vilaine, a rassemblé jusqu'à 2500 personnes. Hier soir, une banderole Happy 2021 a été déployée, rave en cours, et aucune évacuation n'est prévue pour l'instant.
Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança.
La voix de Lisbonne, elle, s'est éteinte. C'est ainsi que l'on surnommait Carlos do Carmo, une des plus grandes références du fado, populaire toute génération confondue. Extrême consternation et douleur profonde après avoir appris ce vendredi sa disparition à l'âge de 81 ans. Ce sont les termes du Premier ministre portugais, António Costa, qui a décrété un jour de deuil national.
Vou pela rua desta lua, que no meu tejo acendo-se. Vou por Lisboa, amarela, que deságua no Rocio. Eu sou um homem na cidade.
Omé Nacidad, interprété par Carlos Do Carmo. Quelques mots de la météo de demain samedi pour fermer cette édition. Temps neigeux de la Franche-Comté au sud-est, des orages de grêle ou de grésille en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Les températures oscilleront de moins 5 à 11 degrés. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Sofiane Actib.